Raphaël, t'es chaud ?
Oui, oui, toujours.
Il va t'allumer ton micro et on y va, jingle.
Ah, j'avais le micro.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Bonjour Monsieur de Paris.
Bonjour Monsieur Coudert.
Ravi de vous retrouver en ce jour où s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de la 5ème République. Alors vous vous demandez certainement de quoi vais-je bien pouvoir vous parler ce matin, sachant que vous exigez toujours de moi que je n'expose qu'une scrupuleuse vérité, tout en illuminant votre matinée d'un rayon de joie et de bonne humeur. Mais souffrez que vous ne me facilitez pas la tâche. Je me dois de révéler aux auditeurs comment s'est préparée mon intervention. Si je ne m'abuse, vous m'avez téléphoné pour planifier cela plus tôt dans la semaine. Voici maintenant, pour tous, une retranscription fidèle de notre conversation.
Je crains le pire.
Moi, allô ? Lui, allô ? Moi, oui ? Lui, c'est Ben. Moi, ok. Lui, attends, je me réveille, je suis encore un peu dans le pâté. Moi, c'est pas grave, j'allais passer à table pour le repas de midi. Lui, ah. Moi, tu voulais quelque chose ? Lui. Moi, allô ? Lui. Allô ? Excuse-moi, je me réveille là, je suis encore un peu dans le pâté. Moi, oui, j'avais cru comprendre. Lui, je t'appelle par rapport à lundi prochain. J'ai pas le temps de passer par le protocole habituel. Confère la précédente histoire, vraiment. Mais faudrait que tu te pointes lundi prochain. Moi, oui, sire, quel thème voulez-vous que j'aborde ? Lui, démerde-toi. Mais faut que ce soit mieux que la dernière fois. Moi, je ferai mon possible. À quelle heure dois-je arriver ? Lui, comme d'hab, tu te pointes vers 6h, 6h30. Comme ça, tu pourras aider Véro à préparer l'émission. Et t'en profiteras pour sortir Corto avant le direct. J'ai oublié de le faire ces derniers jours. Moi, je veux bien, mais comment je fais avec mes gosses ? Lui, c'est pas mon problème, t'as qu'à les amener, ils feront le ménage. Voilà pour notre conversation. Je travaillais donc d'arrache-pied pour honorer votre commande, mais hier soir, vers 20h02, je recevais un nouveau coup de fil. Moi, allô ? Lui, c'est Ben. Je t'appelle un rapport à demain matin. Moi, oui, bien sûr, j'ai préparé une chronique sympa autour des... Lui, laisse tomber, j'ai une autre idée. Moi, ok, laquelle ? Il faut vite que je m'y remette. Lui. Moi, allô ? Lui, attends, je me réveille, je suis encore un peu dans le pâté. Moi, oui, je comprends, on est dimanche soir, et moi aussi, je suis un peu sur les rotules, après avoir tondu le gazon, lavé mes 5 enfants, réparé ma toiture, et préparé un colis envoyé aux enfants ukrainiens. Lui, ok, on s'en fout. Je me réveille là, et je matais la télé, où ils rediffusaient les anges de la télé-réalité, et j'ai vu passer un truc en quoi il y avait des élections. T'as qu'à me faire un topo là-dessus. Moi, mais monseigneur, je ne sais pas si je peux parler 5 minutes des résultats des élections présidentielles. Lui, mais non, pauvre con, fais pas ça, tout le monde s'en fout. T'as qu'à, je sais pas moi, nous parler des élections d'il y a longtemps jusqu'à nos jours. Fou, y en a ras-le-bol, faut toujours penser à tout ici. Moi, d'accord messire, mais je vais trouver quelque chose. Lui, t'as intérêt. Ah, et demain, il faudrait que t'arrives un peu plus tôt pour que prévu parce que j'ai pas préparé la ration de Corto. T'as qu'à lui mettre un quart houblon, un quart rabat de poisson, un quart épluchure et de patates, et tu finis avec de l'eau. Ça ira, il faut que je te l'écrive. Moi, mais votre sainteté, je croyais que... Lui, bon, faut que je raccroche. Que la pub est terminée sur C8. Toujours lui, croyant qu'il avait raccroché. Bon, c'est bon, j'en ai fini avec l'autre blaireau. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce mec. Toujours à parler de ses gosses. Bon, faut que j'appelle Véro pour qu'elle trouve des invités pour l'émission de demain et qu'elle m'écrive un édito. Adolphe, couché, tu vas encore me faire renverser ma bière. Ah merde, j'ai oublié de raccrocher. J'espère que j'ai pas dit trop de saloperies sur l'espèce de bénévole de... Et là, la ligne se coupe sur cette phrase inachevée. Donc me voici ce matin pour vous instruire sur le thème des élections il y a longtemps jusqu'à nos jours, comme vous me l'avez commandé. Vous considérerez alors que vous parlez des élections, il faut remonter soit à la Révolution, soit bien plus avant l'Antiquité grecque ou romaine. Mais que nenni, monsieur de Paris. Je ne remonte pas à de telles extrémités parce que je pourrais vous parler pendant des heures. Et ça, vous ne le voulez surtout pas. Ayant trop peur de vous lasser, c'est donc pour éviter de vous ennuyer avec mes propos que j'ai décidé ce matin de ne pas m'adresser à vous, mais à votre inconscient. À mon arrivée ce matin, j'ai eu le temps de parler avec Corto de vous pendant qu'il mangeait. Nous avons mis en place un super dispositif qui va me permettre à tous nos auditeurs de m'entendre communiquer directement avec votre esprit. Corto, branche-moi avec le cerveau de Ben. Chers auditeurs, nous sommes maintenant en direct dans le cerveau de Ben. Il y a une drôle d'ambiance ici. Pour tout dire, je ne vois pour l'instant pas grand-chose. Beaucoup de vide. Il y a comme un épais voile sombre imbibé de vapeur d'alcool. Il y a une odeur prononcée de renfermé. Cela dit, je n'ai pas l'impression que je suis seul ici. Mais attendez, je perçois une présence. Qui êtes-vous donc ?
Je suis l'intelligence de Ben.
Alors c'était donc vrai, elle existe. Mais vous avez une voix de grande jeunesse, d'une grande pureté.
Oui, Ben m'a bloqué dans un coin de son esprit alors qu'il n'avait que 11 ans. Depuis, je suis restée là et je n'ai que très peu évolué.
Je comprends tout alors. Dis-moi, chère intelligence, crois-tu que je puisse t'intéresser et t'aider à te développer en te racontant un peu comment l'idée d'élection a évolué depuis le Moyen-Âge ?
Oui, pourquoi pas. Je n'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent depuis un sacré moment. Commence pendant que je retourne m'asseoir entre le racisme et la bêtise.
Voilà qui est parfait. C'est ainsi que commence notre réflexion autour de la question des élections dans cette chronique, que j'intitulerai « La voix VOIE de l'élection ou la voix VOX de la sagesse oh. ». Sachez en préambule que les élections existaient déjà au Moyen-Âge pour les communes urbaines, les confréries, les universités, les académies. Toutes ces institutions revendiquaient déjà leur liberté face à un État de plus en plus puissant. Citons encore le cas de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est élu depuis la bulle d'or de 1356 par un collège de 7 princes électeurs, ou encore tout simplement le pape, dont l'élection en conclave se met en place à partir du XIIIe siècle, comme nous allons le voir un peu plus loin. D'autres institutions ecclésiastiques, aussi bien dans le clergé régulier que séculier, pouvaient aussi avoir recours au processus électif pour choisir ses plus hauts dignitaires. À chacune de ces élections, il existe des procédures différentes qui ne se résument pas à un vote à bulletin secret fait dans un isoloir. Quand on se replace dans le contexte social de l'époque, on trouve logique qu'au sein des assemblées ressorte une hiérarchie en état, entre les bellatores, precatores et laboratores, ou comme on dira plus tard, entre la noblesse, le clergé et le tiers état. Il est donc tout aussi logique que la disposition de la salle, les tours de parole et l'organisation du décompte des voix sont influencés par le poids des estats de la dignité de chacun. Ce n'est qu'avec l'émergence des idées des Lumières dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que le principe d'une représentativité égale des individus apparaît, avant de lentement s'imposer dans les statuts électoraux au fil des XIXe et XXe siècles. Tout au long de ces époques, la question de savoir comment prendre une décision sans parvenir à l'unanimité agita le monde politique européen, et notamment les grands cercles ecclésiastiques. Ainsi, on accordait une primauté à la senior pars, la part la plus sage ou la plus saine, sur la plus nombreuse, la major pars. Dans ce cadre-là, on était plus dans le pesage des voix que dans un décomptage. Finalement, la loi du nombre ne s'est imposée que très tard, qu'après de très nombreuses évolutions et compromis qui n'aboutirent finalement que dans un passé relativement récent. Et encore, nous pouvons considérer que ce système de distinction entre la senior pars et la major pars est toujours dans de nombreux cas d'actualité. Le suffrage indirect n'est finalement qu'une version laïcisée de ce pesage des voix que l'on pratiquait dans les élections ecclésiastiques. C'est ce qui se passe lors des élections présidentielles américaines, ou, plus proche de nous, lors des élections municipales, où ce sont les conseillers choisis par les électeurs qui élisent entre eux celui qui sera le maire. Pendant des siècles, le vote à la majorité suscitait de la méfiance, parce qu'il risquait de provoquer des divisions au sein des électeurs et des luttes de factions, des luttes partisanes qui, à terme, peuvent nuire à l'intérêt supérieur. Si l'on regarde d'ailleurs les manuels catholiques jusqu'au XVIIIe siècle, nous y apprenons que l'élection pouvait intervenir sur trois modes. L'inspiration divine, qui est le mode finalement le plus légitime et le plus unanime pour cette époque. Le compromis, en remettant juste à quelques sages la décision et à défaut le scrutin, c'est-à-dire par vote secret à la majorité des voix exprimées. Le mode du scrutin inspirait une telle défiance que même les plus grands dignitaires de l'Église préféraient négocier pour pouvoir trouver un pape plutôt que de voter équitablement. C'est exactement ce qui se produit après la mort du pape Clément IV en 1268. Les cardinaux chargés de lui choisir un successeur se réunirent alors à Viterbe près de Rome. Mais deux groupes opposés se firent à leur face. Celui des Français et celui des autres, qui étaient suffisamment nombreux pour empêcher la majorité des deux tiers nécessaires pour élire parmi les Français un pape. Les discussions durèrent plus de 2 ans sans que personne ne soit choisi. Excédés, les habitants de Viterbe décidèrent d'enfermer les cardinaux dans le palais pour les obliger à trancher. Puis, ils ne leur donnèrent plus que de l'eau et du pain sec pour les affamer. Puis, ils auraient carrément décidé d'enlever le toit du palais pour les exposer aux intempéries.
Ça ressemble à mes méthodes, ça.
Exactement. Face à toutes ces contraintes, les cardinaux restants, puisqu'il y en a 2 qui sont morts pendant les négociations, et un 3e, vieux et malade, aurait démissionné, donnèrent autorité à un collège restreint de 6 membres pour prendre une décision. Et le jour même, ces derniers tranchèrent en faveur d'un obscur archidiacre qui devient en 1272 le pape Grégoire X. C'est après cette épique élection que la décision d'enfermer systématiquement les cardinaux cum clave, c'est-à-dire avec une clé, fut adoptée. C'est ainsi que naît le fameux conclave. On voit avec cet exemple avec quelle grande méfiance était perçu le mode de scrutin, avec recherche d'une majorité simple. Mais lorsque nous devions quand même y avoir recours, de nombreuses procédures permettaient alors d'atténuer les risques de rupture entre les électeurs. Ainsi, on pouvait dans certains cas reprendre sa voix après le vote pour se rallier à l'opinion majoritaire et ainsi se rapprocher d'un idéal, l'unanimité. De la même manière, la sélection du corps électoral est en constante évolution. Pendant la Révolution française, et contrairement à une idée reçue, le suffrage universel n'est presque jamais utilisé. Notamment sous le Directoire, seuls ceux qui paient un cens ont le droit de se présenter à des élections et de voter. En France, il faut attendre 1848 pour voir le suffrage universel masculin s'imposer. Avec l'avènement de la Troisième République en 1870, le mode de scrutin est l'un des principaux sujets de discorde entre les républicains et les monarchistes de tous bords, notamment en ce qui concerne le vote des femmes. Et là, ceux qui rechignent le plus à leur accorder ce pouvoir sont les plus progressistes. Parce que ceux-ci craignent que les femmes, toujours influencées par leur père ou leur mari, aient tendance à reproduire ce vote qui est donc considéré comme inutile. Qui plus est, ces femmes qui se rendent plus régulièrement à la messe sont aussi susceptibles d'être influencées par le clergé qui est traditionnellement anti-républicain. Cette ligne rétrograde est de plus en plus difficile à défendre après la Première Guerre mondiale, où les femmes ont joué un grand rôle, d'autant plus qu'il faut bien remplacer dans la société tous ces hommes morts ou mutilés de lors des combats. En 1944, à la Libération, aucun argument ne tient plus pour refuser le droit de vote aux femmes. Elles peuvent donc voter pour la première fois en 1945, en même temps que les militaires, à qui l'on vient aussi d'accorder ce droit. Après tout, si on demande son avis à une femme, on peut bien aussi le demander à des militaires. Ainsi, notre mode de scrutin, aujourd'hui privilégié, est le suffrage universel direct pour tous les citoyens de plus de 18 ans. Mais maintenant que nous avons tous ces droits, le tiers des Français estime qu'il n'est plus opportun, ni même utile. La déconnexion de nos concitoyens à la prise de décision politique fragilise globalement la démocratie, puisque si l'on additionne les abstentionnistes, les votes blancs, les votes nuls, ceux qui n'ont pas le droit de vote et ceux qui ont voté Marine Le Pen hier soir, on se retrouve aujourd'hui avec un président de la République français élu au suffrage universel direct par bien moins de la moitié des Français. Si l'on prend le résultat du premier tour des élections, et en considérant que ceux qui ont voté Macron l'ont alors fait par conviction, nous pouvons donc affirmer que les Français qui adhèrent au programme mené par le chef de l'État ne concernent que 20% de la totalité des Français inscrits sur les listes électorales. Nous sommes donc très loin de cet idéal de l'unanimité dans la prise de décision. Cela a en tout cas le mérite de soulever des questions. Si ce thème vous intéresse, monsieur de Paris, je vous conseille en tout cas de lire le livre de l'historien Olivier Christin, Vox Populi, une histoire du vote avant le suffrage universel, édité aux éditions du Seuil en 2014. En tous les cas, c'est le livre de chevet que j'ai acheté à mes enfants pour qu'ils puissent tous le lire et m'en faire une fiche de lecture détaillée. C'est aussi celui que je confie à monsieur de Paris, à votre intelligence.
Merci Raphaël, mais je suis plus souvent occupé à enlever les toiles d'araignée qu'à lire dans ce cerveau.
Merci beaucoup, Jeanne. Je ne vais pas remercier ton père. Merci beaucoup, Raphaël. Le mieux, c'est qu'au milieu d'un tas d'insanités, on apprend des choses avec toi. C'est intéressant.
C'est pour ça que je suis prof. Hein.
Et puis, vous avez jusqu'au 4 mai prochain pour vous inscrire sur les listes électorales.